Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Nous allons ensemble goûter les mots et découvrir l'histoire de la langue. Avec aujourd'hui une question posée depuis des lustres sur l'origine du langage. Alors pourquoi, qui en premier, d'où ça vient? Vous allez voir que pour répondre à cette question, il faut d'abord en poser des tas d'autres et que parler des origines, c'est aussi parler de l'évolution du langage. Et puis enfin, je vous le dis tout net, si vous voulez connaître les origines du langage, il vous faudra faire comme les copains, attendre encore, car nous n'aurons pas de réponse à vous apporter aujourd'hui, surtout pas avec nos invités qui émettent des hypothèses, qui démontent des hypothèses, qui croient des hypothèses et qui n'en finissent pas de poser de nouvelles questions. Mais qu'importe, car c'est un beau voyage qui nous attend et que de rencontres avec d'autres humains, d'autres espèces et aussi d'autres moyens de communication que les sons articulés. Nos invités, Jean-Louis Dessalles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives à l'École nationale supérieure des télécommunications. Et Pascal Pic, bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France et vous avez signé un ouvrage aux éditions du Pommier, tous les deux, tous les trois même, parce qu'il y a un troisième luron, c'est Bernard Victory qui est absent aujourd'hui, mais qui a signé cet ouvrage avec vous, un ouvrage qui s'appelle « Les origines du langage », on y reviendra. Et puis avec nous aussi Nicolas Delourme pour l'actualité de la langue. Nicolas, le sujet?
Parlez-vous soqueranto. Si vous ne savez pas ce qu'est un Harry Potter, un Caridero, un Lollipop ou un Chilaver, vous ne savez pas ce qu'est le soqueranto. Un indice tout de même, ce langage universel vient de consacrer un nouveau terme dans son dictionnaire, coup de boule, et tout ça grâce à Zinedine Zidane.
Alors on y revient, on saura ce que c'est dans quelques minutes. Hein. Messieurs Dessalles et Pic, comment le langage est-il apparu? C'est notre seule question en fait cet après-midi, mais pour explorer des voies de recherche, où j'ai écrit avec ES à la fin, il faut déjà peut-être s'entendre sur ce terme de langage. Et on va commencer par ça en précisant que ici nous aurons le point de vue de différents axes de recherche, donc paléo-anthropologie et éthologie. On va croiser des domaines, et c'est vrai que croiser des domaines, c'est déjà quelque chose de nouveau, Pascal Pic.
Oui, parce que très souvent, ces grandes questions, alors celle de l'origine des langues, ça traverse l'histoire. Il y a eu des expériences qu'on appelle interdites aujourd'hui, qui consistaient par exemple à enfermer de jeunes enfants, très jeunes donc, et de les faire ressortir de ces placards et de savoir s'ils allaient prononcer le premier mot biblique, le premier mot de Dieu. Donc c'est une vieille interrogation qui traverse nos cultures. Et aujourd'hui, effectivement, nous sortons quasiment à peine, je devrais dire, de la métaphysique, c'est-à-dire on pose de grandes questions sur les origines, le langage. Alors, on a des tas d'hypothèses comme ça autour du propre de l'homme. C'est pour ça que je parle un peu de métaphysique, puisque l'homme, dans son essence, dans ce qu'il est, serait tout à fait hors de la nature. Et de sortir de là, je peux vous dire, c'était une sacrée affaire. Mmh. Et au risque de vous surprendre, il y a eu très peu d'approches interdisciplinaires. Ça se fait depuis quelques années. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Louis Dessalles, Bernard Victory, puis quelques-uns de nos amis et amis eux. Donc on commence à croiser, comme vous dites. Alors, effectivement, nous avons un petit peu discuté de ça avant l'émission. On m'avait dit, mais alors vous n'avancez pas les gars.
Mais si, on avance. Parce que moi je voulais une réponse à la question.
Oui, mais comme je vous le disais très gentiment, si vous voulez une réponse, allez voir des théologiens ou des gens
mais
de
vous ne m'avez pas dit ça gentiment du tout. Vous m'avez dit, partez ailleurs. Allez voir quelqu'un d'autre.
Non, mais la réponse, le grand tel comme le langage ou la Bible, oui. Ceci n'est pas du domaine des sciences. Lorsque nous sommes en sciences, effectivement, il nous faut donner des critères. Mmh. Qu'est-ce que le langage? Qu'est-ce qu'il y a dans le langage? C'est ce travail que nous avons fait. Et ensuite, on va rechercher à travers les différentes disciplines qui sont concernées et à travers les différents champs de connaissances des scénarios. Et ces scénarios, donc, nous permettent d'avancer. Et puis à partir de là, on va aller chercher, à chaque fois ça va poser d'autres questions. C'est pour ça que ça nous amène en éthologie, donc chez le comportement des grands singes notamment, mais il n'y a pas que, il y a aussi les perroquets.
Oui, puis les oiseaux aussi.
Il y a les oiseaux, il y a les cétacés, et puis on va voir ensuite la paléontologie, et puis la modélisation, mais ça c'est chez Jean-Louis Dessalles.
Ouais. Vous avez observé aussi les oiseaux, pour savoir d'où venait le langage?
Alors, j'ai pas la chance d'être ornithologue moi-même. Hein. J'ai lu les travaux de personnes très compétentes sur cette question. Oui. Pourquoi les oiseaux pourquoi on sera peut-être amené à parler des oiseaux?
Oui.
Parce que ils ont des comportements qui ne sont pas sans rappeler le comportement de notre espèce pour ce qui est de la communication. Alors. Pour commenter un petit peu ce que vient de dire Pascal, je pense que nous vivons une période extraordinaire maintenant par rapport à cette question de l'origine du langage, puisque pendant des décennies, c'était une question quasiment taboue. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai publié sur cette question, c'était de manière très confidentielle, c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et il y avait une espèce d'autocensure, on n'osait pas parler de cette question, pour plein de raisons. On rappelle souvent l'interdit qu'il y a eu au milieu du 19e siècle par la Société linguistique de Paris, bon, qui avait ses raisons, mais une des raisons, c'était parce qu'il y avait pléthore de théories fantaisistes sur la question de l'origine du langage. Et je disais que nous vivons une période extraordinaire maintenant, parce que nous sommes à une période où il y a une espèce de raréfaction des théories. C'est-à-dire que énormément de choses qui étaient admissibles avant et surtout au XIXe siècle, compte tenu des progrès de la connaissance, apparaissent maintenant comme douteux, voire fantaisistes. Et on a un peu un retour de balancier dans l'autre sens, ce qui fait qu'il y a très très peu de théories, enfin, qui donnerait une causalité dans l'origine de ce comportement très très particulier de notre espèce. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher chez les oiseaux pour trouver des comportements analogues. On a très très peu de théories qui sont compatibles avec ce que l'on sait des sciences de la nature, notamment de la théorie de la sélection naturelle de Darwin.
Très particulier et qui nous prend beaucoup de temps, parce que si je vous ai bien lu, Jean-Louis Desselles, vous dites qu'on passe 1/5 de notre temps d'éveil à parler.
Il y en a qui parlent plus que d'autres.
Il y en a qui parlent plus que d'autres.
C'est une moyenne. Hein.
Mais, et ceux qui parlent moins, parfois, écoutent beaucoup. Donc, finalement, si on regarde le temps passé au langage, surtout que dans nos sociétés, ça se complète par le fait de lire et d'écouter la radio. Donc, cette activité langagière nous prend un temps considérable. D'un point de vue d'éthologiste, si on regarde un petit peu notre espèce dans ce qu'elle a de particulier, comme on regarderait n'importe quelle autre espèce, on s'intéresse toujours à ce qui est particulier. On va pas regarder les castors en ignorant la manière dont ils bâtissent des barrages. On ne regarde pas l'espèce humaine en ignorant ce comportement très étonnant qui effectivement nous prend 20% du temps éveillé, qui consiste à jacasser et à échanger des messages sans cesse renouvelés. Donc on est obligé d'aller chercher très loin dans d'autres espèces. On pense tout de suite aux dauphins, mais on ne comprend pas grand-chose à ce que font les dauphins.
Ça vous fascine aussi, Pascal Piquin,
Oui, dauphin. Bien sûr. Alors, les cétacés ont une caractéristique avec nous qui est importante, c'est qu'ils vivent dans des systèmes sociaux très complexes, et surtout, ils vivent longtemps. Parce que le langage, on sait très bien, il y a un aspect qui est lié à un long apprentissage, et ça ne peut se faire que chez des espèces qui vivent longtemps. Et donc, ce qu'on appelle l'ontogenèse, donc les périodes de la vie, lorsqu'une enfance est prolongée, effectivement, il y a un très long contact auprès de la mère et auprès du groupe et autres. Alors, les dauphins ont des modulations extrêmement complexes que les chercheurs autour des dauphins ont bien enregistrées. Mais la grande difficulté, par exemple, par rapport aux grands singes, notamment les chimpanzés, c'est que là, les codes sont différents des nôtres. En plus, suivre à la nage les dauphins quand ils commencent à se balader, c'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez bien. Alors qu'on peut plus suivre les chimpanzés, les mettre dans le laboratoire. On le fait avec les dauphins, bien sûr, dans de grands aquariums. Et puis également, les chimpanzés ont des comportements qui sont très proches des nôtres. Donc, on arrive à mieux lire. Et donc, on s'aperçoit que cette fonction langagière, tout à fait particulière, comme l'a dit Jean-Louis de Sales, en fait, elle se retrouve dans d'autres groupes. Mais on n'est pas capable de distinguer ce qui est commun ou pas. Donc on voit des structures sociales, des communications. Les oiseaux passent beaucoup le temps, non pas à jacasser, mais à piailler. Et là aussi, ça fait partie de la cohésion sociale. Et on a découvert récemment qu'il y avait des dialectes aussi, etc., etc.
Mais est-ce que pour vous, il n'y a que l'homme qui est doué de langage? Est-ce que vous diriez ça?
Ben, ça dépend des critères que vous donnez. Ce que nous faisons
vous-même. C'est pour ça que définition est importante.
On peut trouver une définition du langage, parce qu'il y en a plein de définitions du langage, qui est tout à fait propre à l'homme. À travers la double articulation, c'est-à-dire cette capacité que nous avons d'utiliser très peu de termes qui peuvent s'ordonner dans la phrase d'une manière différente, et qui ensuite, ces termes sont complètement dépendants du sens. Donc, il y a deux niveaux. Enfin, la double articulation, j'ai toujours du mal à bien la définir. On parle aussi de double articulation chez les oiseaux, mais ça, c'est pas encore bien établi. Chez les dauphins, on n'en parle pas du tout, mais peut-être qu'on n'est pas capable de le voir. Et le langage, effectivement, c'est ce que j'ai fait au début du livre, j'ai regardé toutes les définitions qu'on donnait, et on s'aperçoit que lorsqu'on prend des listes de critères, en définitive, les différents critères que vous prenez, par exemple la fonction de communication, c'est-à-dire d'échange, ce qu'on appelle la fonction, Jean-Louis disait très bien, on passe 20% de notre temps autour du langage.
À jacasser.
Ou à jacasser, n'importe. Bien, on appelle ça la fonction fatigue, c'est-à-dire c'est une fonction de contact important, ce qu'on appelle parler de la pluie du beau temps. Ben, cette fonction-là, évidemment, est très développée grâce au langage chez nous. Mais chez les chimpanzés, cette fonction très importante d'un point de vue social qui consiste à s'épouiller. Le pouillage, ça consiste moins à chercher des poux dans la tête qu'à donner des échanges en termes d'alliances politiques, etc. Et bien, cette fonction, eh bien, elle est peut-être pas propre au langage, mais le langage va la développer. Mmh. Donc, très clairement, il y a des aspects, mais là, je passe la balle à
Jean-Louis
de Sable, qui est plus linguiste que moi, moi je le suis très peu, sur ces définitions du langage, mais il est vrai qu'avec très peu de termes, qu'on peut appeler les mots pour faire simple, eh bien, on peut donner une infinité d'énoncés. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. On peut avoir des fonctions narratives, c'est-à-dire évoquer des histoires en dehors du contexte dans lequel on est. Moi, je veux parler du lion dont j'ai entendu parler dans la belle chanson d'Henri Salvador. Bon, en fait, on n'a pas l'impression que les autres espèces sont capables de faire cela. C'est extrêmement important. Donc, il y a des fonctions, très clairement, qui apparemment sont liées au langage. Mais le langage, lui, c'est ça la difficulté, va englober tellement c'est puissant comme mode de communication énormément de fonctions sociales ou de communication qui ne sont pas exclusivement spécifique. Mais il y a des aspects tout à fait particuliers. Mmh. Mais là, Jean-Louis est meilleur que moi là-dessus.
Le langage, c'est un épouillage ou ça pourrait être comparé à l'épouillage des singes?
Ah oui, la comparaison est beaucoup plus qu'anecdotique. Hein. Ah, elle a été introduite de manière spectaculaire par un éthologiste grand breton qui est Robin Dunbar, ouais, et qui a comparé le langage à l'épouillage des singes. Et surtout par sa fonction, hein, comme l'a dit Pascal Pic, la fonction qui est qui est le lien entre le fait d'établir des liens physiques par le langage ou par l'épouillage d'un côté et le fait d'établir des liens de solidarité. Donc ça, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. C'est l'importance sociale du langage. Peut-être que la clé de l'origine du langage est vraiment là. Pour ce qui est du propre de l'être humain et du langage, bon, vu de loin, le langage est une forme de communication, et donc, vu de très loin, on pourrait dire, bon, ben, toutes les espèces communiquent plus ou moins de manière chimique, même les insectes, et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vu de près, chaque espèce est différente. Mmh. Chaque espèce est unique et nous ne faisons pas exception. Et pour ce qui est du langage, nous faisons, enfin, notre forme de communication a bien des aspects uniques. Donc, tu as mentionné, Pascal, la question de la double articulation. Donc ça, on pourrait s'amuser à le trouver effectivement chez les oiseaux avec des niveaux de combinatoire.
Avec ces fameux oiseaux velvettes là que vous présentez.
Il y a beaucoup d'oiseaux chanteurs. Bah, prenez les rossignols, par exemple. Les rossignols, certains analysent leur chant en trouvant quatre niveaux de combinatoire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des chansons, ils ont des couplets, des refrains, des phrases, etc. Donc, on arrive à quatre niveaux. Ils font des variations, des combinaisons.
On les comprend?
On les décrypte, comprendre le sens, hein, le sens est suffisamment à la fin, même si les rossignols sont relativement champions dans ce domaine-là, on arrive à circonscrire ce qu'il est possible de faire avec ces chants, et la sémantique, c'est-à-dire le sens de ce que est assez limité pour autant qu'on le comprenne.
Parce qu'il faut connaître
jamais.
L'alphabet.
En gros, c'est très publicitaire, c'est-à-dire c'est les mâles disent aux femelles, regardez comme je suis
beau, le rossignol. Quoi.
On ne comprend pas tout, hein, mais surtout on ne comprend pas les raisons pour lesquelles ça a apparu. Enfin, cette forme de chant très combinatoire est apparue dans telle espèce et pas dans telle autre. Tout cela reste à découvrir. Mais globalement, la fonction semble être liée à la reproduction, puisqu'il y a dans beaucoup d'espèces, un fort dimorphisme, c'est-à-dire que ce sont les mâles souvent qui chantent et pas les femelles, donc il y a une idée de marquage territorial très fort, etc.
Oui, mais vous dites dans votre ouvrage là que pour expliquer, vous, hein, Jean-Louis Dessalles, que pour expliquer la présence du langage, il faut se pencher sur le fait que les individus qui parlent se reproduiraient mieux que ceux qui ne parlent pas.
Ah, ça, c'est le défi.
Restant dans la même espèce. C'est votre point de départ.
Ah, c'est le point de départ, c'est le défi. C'est-à-dire qu'on nous a, on a tous grandi il faut bien appeler ça des fables.
Oui.
On a tous expliqué que le langage était quelque chose d'évident, de naturel. Nous parlons parce que nous sommes intelligents ou nous parlons parce que c'est bon pour notre espèce, etc. Tout cela, ce sont des fables. Il n'y a aucun fondement scientifique à ces idées-là. On peut très bien parler sans intelligence. Le langage peut démarrer par un simple geste pour indiquer aux copains qu'il se passe quelque chose quelque part. Nous sommes une des rares espèces à le faire et certainement, c'est une... La, la différence avec nos amis, les cousins primates, elle commence déjà là. C'est-à-dire que les primates sont très curieux, oui. Mais ne communiquent pas ce qui fait l'objet de leur curiosité. C'est-à-dire que, alors que l'être humain est dès le plus jeune enfant, dès l'âge d'un an...
Dès qu'il voit quelque chose qui l'interpelle, il communique.
Non seulement il est curieux, il fait attention, mais il n'a de cesse que d'attirer l'attention des autres personnes présentes pour attirer leur attention sur le stimulus. Et donc ça, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour faire ça, c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de pharynx bas, c'est pas une question de bipédie ou d'intelligence ou de... Et déjà, on a là un énorme paradoxe, c'est dans les sciences de la nature, notamment la théorie darwinienne, c'est presque une insulte à Darwin au départ. C'est-à-dire que pourquoi donner des informations utiles à d'autres individus qui sont finalement les concurrents génétiques? Et on a là un paradoxe qu'il s'agit de résoudre en restant évidemment dans le cadre des sciences de la nature. Sinon,
mais on rejoint votre champ du rossignol, là.
Alors voilà, on trouve le champ du rossignol où, je crois que j'en parle dans le petit livre sur les origines du langage, là, le fameux cratère opécaillé, vous savez, ce petit oiseau du désert, qui a un très joli nom, et qui fait des actes absolument incroyables, pas tellement par le champ, finalement, hein, cet oiseau nous intéresse pour tout à fait autre chose, par son comportement, où il se bat pour se montrer altruiste, c'est-à-dire pour ces oiseaux-là sont en compétition pour essayer de montrer qu'ils sont les plus utiles au groupe. Et d'une certaine manière, le langage humain est pas très différent. Nous sommes en le langage, la conversation, hein, telle qu'on l'observe tous les jours et tout autour de nous et à laquelle nous adonnons sans retenue, consiste à être en compétition pour montrer qu'on a les meilleures nouvelles à rapporter aux autres.
Et c'est pour ça qu'on est là, Pascal Pic, aujourd'hui?
Ah, pour ça qu'on est là, je sais pas.
Et qu'on, hein, et qu'on peut faire ce qu'on fait, là, aujourd'hui.
Mais il est sûr que ça a été un des facteurs extraordinaires dans le succès de l'évolution de notre lignée. Puisque, avec les chimpanzés, nous partageons un dernier ancêtre commun. Tout le monde a entendu parler de ces 99% d'identité génétique, en tout cas l'ADN, entre les chimpanzés et nous. On se pose même la question de savoir s'il y a même des différences en termes de gènes, voyez. Mais en tout cas, nous partons d'un fonds commun qu'on appelle le dernier ancêtre commun.
Ce fameux 1%, on se pose des questions dessus.
Mais il n'y a peut-être même pas ça, vous voyez. Mais ce qui... écoutez, ça fait une belle analogie de langage. En définitive, on a fait ça, par exemple, en comparant l'écriture de Molière et de Racine. On a même dit à une époque que c'était les mêmes auteurs. Or, il s'est avéré, c'est très facile à faire, qu'en fait, l'un et l'autre utilisent un vocabulaire assez restreint. Bien. Donc, ce qu'a fait la génétique du XXe siècle, c'est de décrypter le vocabulaire des espèces. C'est-à-dire l'œuvre de Molière, l'œuvre de Racine, c'est-à-dire le génome de l'homme et du chimpanzé, et les autres arrivent. Donc maintenant, je vous donne le vocabulaire de Molière et de Racine. Allez, tout le monde à vos stylos. Et d'un côté, vous me faites une tragédie, de l'autre côté, vous me faites une comédie. Donc vous voyez qu'on est au-dessus, on est dans la combinatoire, dans la grammaire, la sémantique, la syntaxe. Donc ça a joué là-dessus. Donc nous héritons avec les grands sages, et c'est ça qui est important, et pardon de un petit peu mon manque de modestie, mais c'est moi qui ai né vraiment les grands sages il y a 20 ans dans les origines de l'homme, quand j'ai vu tout ce qui arrivait en éthologie, j'en ne peut plus aujourd'hui. Bon, les gens sur l'étude du langage ne nous avaient pas attendu. Mais après cela, pour tout le reste, on était vraiment très en retard. Et de comprendre que justement, aller voir chez les grands sages, c'est pas réduire l'homme à un grand sage, au chimpanzé. C'est justement, dans le cadre des théories modernes de l'évolution, Jean-Louis en a beaucoup parlé, mais ce qu'on va appeler maintenant les classifications, ce qu'on appelle la systématique, une démarche qui consiste à classer les espèces. Oui. Donc là, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les chimpanzés sont plus proches de nous que même des gorilles. Vous voyez ? Donc, cette approche qu'on appelle la systématique, ou la cladistique moderne, pour faire simple, j'emploie plus de gros mots, nous a amené à, non pas à extraire l'homme, comme on l'avait fait jusqu'à présent, et comme l'a dit Jean-Louis rapidement, du reste animal. On dit l'homme, c'est ceci. Mais puis, on a mis l'homme complètement en dehors des sciences de la nature. Donc, c'est là qu'on avait des réponses toutes faites. Et, par conséquent, l'approche qui consiste à nous comparer aux autres espèces, ben, nous oblige, au contraire, lorsqu'on prend un critère pour le langage, à aller chercher si ce critère n'est pas observé, comme on l'a dit sur la fonction phatique. Donc, voilà. Donc, c'est pas une réduction. Et là, à partir de là, lorsqu'on regarde tout ce que l'on a en commun avec les grands singes, on le met dans le pot commun. C'est le dernier ancêtre commun. Et ensuite, on essaie de voir comment, à partir de là, les chimpanzés sont devenus des chimpanzés, mais là, on a très peu de choses, parce qu'on connaît très peu leur évolution. Heureusement, dans mon domaine, la paléoanthropologie, donc l'étude de l'évolution de l'homme, nous avons beaucoup de données, et on essaye de voir, en fonction de l'évolution de la morphologie, du crâne, de la bipédie, de l'archéologie, jusqu'aux œuvres d'art, si ceci peut nous donner des éléments sur l'évolution de la fonction du langage.
Oscar Lafitte-Certa sur Europe 1.
Actualité du langage, Nicolas, un nouveau dictionnaire vient de sortir, il n'est distribué qu'en Angleterre, pour le moment, hein, mais vous pouvez tout de même l'acheter puisqu'il traite d'un nouveau langage universel, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, c'est le Sokeranto, c'est ça, Nicolas?
Oui, c'est bien, Sokeranto.
Une sorte d'espéranto, on va dire, limité au monde du football.
La baguette a marqué un Alberto pour faire mita-mita, tandis que le gardien adverse avait réalisé un chilaver en première mi-temps, mais grâce au Harry Potter de notre équipe, sur une passe d'un Codillo, on a encore marqué face à un Flingenfanger remplaçant. Vous n'avez pas compris ?
Non.
Non, non, même les chimpanzés n'auraient pas compris.
Forcément, parce que vous, ni vous ni lui parlez encore le Sokeranto. Ce nom fait évidemment référence à l'espéranto, qui désigne ce langage universel un peu utopique inventé au 19e siècle par un linguiste polonais. Le mot Sokeranto vient du mot soccer, qui désigne le football tel qu'on le pratique ici en France, dans les pays anglo-saxons. Il faut dire que les inventeurs du Sokeranto, l'Argentin Ignacio van Gelderen et l'Anglais Ted Friedman, reconnaissent être bien meilleurs en football qu'en linguistique. C'est donc en tant que supporters qu'ils se sont lancés dans la création de ce langage. Comment les joueurs, les supporters et même les officiels peuvent-ils se comprendre quand les 32 équipes qualifiées pour le dernier mondial parlaient 18 langues différentes, s'interroge Ted Friedman. Par exemple, ce que vous appelez en France un petit pont, quand un joueur fait passer le ballon entre les jambes de son adversaire, s'appelle une courgette en Autriche et un tunnel en Allemagne. Alors il était temps de mettre de l'ordre dans le petit pont ou la courgette. Retenez ça, en Sokeranto, le petit pont se dit maintenant pour tous les joueurs, journalistes et supporters de la planète un nutmeg, N-U-T-M-E-G.
Et comment ces deux supporters, alors pas linguistes pour un sou, ont-ils procédé pour inventer ce langage universel
Ce n'est pas vraiment un langage parce qu'il n'y a encore aucune grammaire écrite et arrêtée. Il s'agit donc davantage d'un lexique commun, applicable ensuite dans toutes les langues qui ont recours à l'alphabet latin, que d'un idiome bien structuré. Mais le vocabulaire du Sokeranto s'enrichit de jour en jour grâce aux propositions des passionnés du monde entier sur Internet. Alors il y a tout de même quelques règles. Ce vocabulaire est en réalité une réunion ou un best-of des termes des termes déjà employés dans tous les grands pays de football. Vous trouvez donc pêle-mêle un mot anglais, un verbe espagnol ou une expression française, mais règle primordiale, ne sont retenues que les langues des pays qui ont remporté au moins une fois la Coupe du Monde.
Donc la France, yes.
Voilà, si les Bleus n'avaient pas gagné en 98, le Sokeranto n'aurait pas fait de place aux Français, tout comme vous ne lirez pas ou n'entendrez pas de Suédois, de Grecs, de Chinois ou d'Arabes dans ce langage, en tout cas... Pas encore.
Mais de l'italien.
Voilà, vous ne trouverez que de l'espagnol, du portugais.
Oui.
Pas grâce au Portugal, mais grâce au Brésil, qui a remporté plusieurs fois la coupe. De l'italien, de l'anglais, de l'allemand et du français. Par exemple, l'expression « porteur d'eau », telle qu'elle, en français dans le texte, fait partie du premier dictionnaire de Sokeranto. Elle désigne le joueur qui ne rechigne pas à la tâche pour faire gagner son équipe, comme en cyclisme. Le dictionnaire donne même un exemple. Le grand joueur français Didier Deschamps était un fabuleux porteur d'eau. Voilà, ça lui fera certainement plaisir. Vous trouverez également les mots français « baguette » pour parler d'un joueur de grande taille comme Patrick Vieira, mi-temps pour la période entre les deux parties du match, et roulette pour désigner l'un des gestes favoris de Zinedine Zidane. Tiens, à propos de Zizou, un néologisme encore français devrait bientôt faire son entrée dans ce dictionnaire, le coup de boule.
Et tous ces mots français sont censés être employés donc dans le monde entier quand on parle de football, et en français dans le texte.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, il n'y a pas que des mots français, on trouve comme ça des expressions ou des termes issus de toutes les langues citées tout à l'heure. Par exemple, Flingenfanger, je parle pas très bien allemand. Alors ça désigne un gardien de but franchement nul, de l'allemand attrapeur de mouche. Il y a le lollipop qui vient de l'anglais, lorsque le joueur dribble avec le ballon mais trompe son adversaire en faisant passer sa jambe au-dessus de la balle sans la toucher. Ce geste est un peu technique, c'est appelé un lollipop. Ne dites plus match nul mais matamata, portugais, matamata. Vous entendrez également parler d'un Harry Potter en un seul mot et sans majuscule puisqu'il s'agit ici d'un nom commun. Il s'agit d'un milieu de terrain au jeu magique, comme Zidane, qui était un Harry Potter pour l'équipe de France. Enfin, quand les mots sont déjà communs à une majorité de langues, ils sont forcément retenus. Un corner reste un corner en Sokeranto, un dribble est un dribble et un hooligan est toujours un hooligan. La dernière grande catégorie de mots qui forment l'essentiel de ce vocabulaire est formée à partir des patronymes des plus grands joueurs ou de certains autres qui, bien malgré eux, ont marqué l'histoire du foot. Par exemple, une chilaver. du nom de José Luis Chilaver, qui était le gardien de but du Paraguay et qui a, je crois, également joué à Strasbourg. Est-ce que vous avez une petite idée?
Il a peut-être marqué lui-même dans ses buts, non? C'est pas ça?
Voilà, la Chilaver se produit lorsque le gardien de but...
Ouais, forte, hein?
Parce que je vous l'ai dit.
Mais
le
non
gardien de but, lorsqu'il traverse tout le terrain pour aller marquer dans le camp adverse, c'est une Chilaver. Et José Luis Chilaver a réalisé 62 fois cet exploit au cours de sa carrière, y compris en comptant les pénaltys qu'il a tirés lui-même. Une fontaine désigne un joueur qui marque beaucoup de buts. Une fontaine, pourquoi?
Juste Fontaine.
Ouais. Voilà, c'est en hommage au joueur français Juste Fontaine qui avait marqué 30 buts en 21 matchs dans les années 50. Une Maradona permet évidemment de parler d'un but irrégulier, marqué de la main.
Ça, vous connaissiez, Jean-Louis Salle.
Voilà, comme Maradona en 86. Une Zizou pour la fameuse roulette. Et puis un pénalty manqué est un Baggio. L'italien Roberto Baggio est responsable
d'un...
C'est cruel, hein? C'est vrai.
C'est pas gentil.
Et le dictionnaire dit que l'italien Baggio est responsable d'un des plus fameux pénaltys manqués de l'histoire du football. Ouais. C'était en finale de la Coupe du Monde 94 face au Brésil.
Et vous pensez sérieusement que les supporters français ou les joueurs ont besoin de ce langage, Nicolas?
Peut-être pas, parce qu'il est plus amusant, ludique que pratique, notamment pour désigner des aspects techniques ou tactiques du jeu. Cela dit, il répond à un vrai problème dans les clubs. Le championnat de France de Ligue 1, par exemple, compte cette année 180 joueurs étrangers, représentant 45 nationalités et une douzaine de langues différentes. Le football club de Nantes a ainsi recruté 4 joueurs étrangers, un Serbe, un Suédois, un Marocain et un Camerounais. Vous ajoutez à cela 2 Argentins qui étaient déjà là, un Roumain et un Malien. Et le problème de la langue se pose vraiment, si bien que le club a embauché en plus un linguiste cette année. Philippe Patry a déjà officié pour 8 autres clubs de Ligue 1. J'accompagne le joueur dans les situations tous les jours pour qu'il sache appréhender la réalité de son nouveau quotidien, explique-t-il. Je ne parle pas forcément sa langue, mais je le suis dans ses avancées, dans sa structuration linguistique et culturelle. Et dans quasiment tous les clubs, il n'y a pas encore de cours de Soccerranto, mais des leçons de français sont prévues. Par exemple, le Stade Rennais se souvient de son dernier gardien de but tchèque qui travaillait très bien sa grammaire.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Sur place, bien à faire ses devoirs, bah, c'est une manière comme une autre de marquer l'histoire du foot.
Cela dit, la danse, par exemple, qui est une activité sportive, danse classique, hein, tout le vocabulaire, pas la grammaire évidemment, mais tout le vocabulaire spécifique à la danse est français. Français dans le texte, dans le monde entier.
Bah, ça, c'est un héritage du grand Louis XIV.
Exactement, donc, héritage, mais cela dit, ça peut fonctionner. Donc, pour ceux qui veulent
ça
en savoir
plus...
Ça
doit être pour l'escrime aussi, d'ailleurs.
En français,
on doit parler en
tout cas,
français.
Sur les, pendant les compétitions, l'arbitre parle français. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc télécharger le dictionnaire de Soccerranto. On vous laisse l'adresse du site sur europe1.fr, et puis c'est interactif, vous pouvez faire des propositions en plus. D'où vient le langage? Quelles sont ses origines? Sait-on comment parlaient nos ancêtres néandertaliens, entre autres, hein? Nos invités se sont posé la question et nous expliquent pourquoi ils n'ont pas une solution à apporter. Les origines du langage, nous en parlons avec Jean-Louis Dessalles et Pascal Pic. Vous nous disiez, à la suite de la chronique de Nicolas Delorme à l'instant, qu'il y avait un bel enchaînement à faire. Donc quel est-il? Parce que, n'étant pas spécialiste...
Entre le soccer et le singe, on ne voit pas.
On ne l'a pas forcément, mais
c'est ce qu'on appelle le langage pidgin, c'est-à-dire qu'en fait... ça s'était observé par beaucoup de linguistes et d'anthropologues, quand des jeunes, notamment plus souvent les jeunes, mais c'est aussi pour les adultes, de différentes langues, même sur un terrain de foot, qui ne se connaissent pas, ils vont commencer à échanger des mots, c'est le langage Tarzan, tout ça. Et alors ça, c'est pas encore un langage.
Ils vont dire ballon, ils vont dire but, ils vont dire touche.
Vous avez très bien dit, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de sémantique, etc. Et après, ça va se construire et ça va devenir ce qu'on appelle un langage créole, qui devient une vraie langue. Alors il y a des exemples extraordinaires, je crois que c'est au Nicaragua où il y avait eu des enfants qui avaient subi les uns et les autres différents types de traumatismes sociaux et familiaux et qui ne parlaient pas. Donc ils ont été mis ensemble et très très vite ils ont construit donc ce qui n'est pas le langage du pidgin, et très vite ils ont construit une langue, le créole. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en définitive, au cours de notre évolution, nous avons acquis ce que Steven Pinker appelle, un grand linguiste, élève de Chomsky, ce qu'on appelle une grammaire, une capacité à faire une grammaire, qu'on appelle une grammaire universelle. Alors c'est un peu discuté tout cela, bien évidemment, mais ce qui est extraordinaire, c'est que notre évolution par rapport aux chimpanzés, par exemple, a fait qu'à partir d'un fond commun, tout enfant qui naît sur cette terre, dans notre espèce Homo sapiens, naît avec l'aptitude... Donc, d'apprendre un langage. Et lorsqu'on voit se construire des langues aussi rapidement, c'est absolument fascinant. Mais on voit bien qu'il faut quand même un contexte social ou autre. Mais là, je suis sûr que
lorsque vous dites que une langue peut se construire très rapidement, cette expérience sur ces enfants-là, ça, c'est, cette langue s'est construite en quelques mois, quelques...
Alors, oui, au Nicaragua, c'est pas une expérience, c'est une expérience spontanée, disons.
Spontanée, hein. C'est-à-dire
c'est des enfants sourds qui étaient isolés, ne développaient qu'un vocabulaire de quelques dizaines de signes avec leurs parents. Et après la révolution sandiniste, donc dans la fin des années 70, on s'est préoccupé de les mettre dans des institutions. Et ils ont développé, dès qu'on les a mis ensemble, ils ont développé une langue des signes spontanée, bien que les instituteurs essaient de les dissuader, puisque c'était des instituteurs qui n'étaient pas du tout spécialisés pour les prendre en charge. Et comme disait Pascal, les plus âgés, les adolescents ont développé une sorte de pidgin. Et pourquoi le pidgin, c'est une langue sans grammaire, comme l'a dit Pascal. Et pourquoi le pidgin nous intéresse tant? C'est parce que il constitue peut-être l'image d'une version antérieure du langage, de la faculté de langage. Donc c'est un thème qui est abordé par Bernard Victory, qui
dans
est dans l'ouvrage, le troisième co-auteur, voilà, qui parle du proto-langage, de cette hypothèse, et donc dont le pidgin, les pidgins actuels ou passés se offriraient une bonne image. Et ce qui était remarquable dans le cas du Nicaragua, c'est que les plus jeunes enfants, ceux qui avaient 6 ans, ont développé une authentique langue des signes, donc l'analogue d'un créole. Et comme vous le dites, il n'a pas fallu 5 générations pour le faire. Il n'a pas fallu ni même plusieurs décennies, puisque le temps que les enfants grandissent, c'est-à-dire passent de 6 ans à l'âge de la puberté, ça y est, la langue était là. Dans le cas du langage, il semblerait que cette faculté ne se révèle pleinement que si on est suffisamment jeune. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le monde du vivant. Hein. C'est le principe de cette fenêtre au cours de la vie pendant laquelle on peut encore faire émerger certains comportements. Nous le savons nous-mêmes pour ce qui est de l'apprentissage d'une langue étrangère. Si vous apprenez une langue étrangère après la puberté, vous n'attrapez jamais un accent correct. C'est-à-dire que vous serez toujours détecté comme un étranger dans les pays. Sauf personnes exceptionnellement douées, mais qui sont au moment de très rares exceptions. En général, il faut apprendre une langue étrangère ou au moins être en contact avec elle avant l'âge de la puberté.
Parce qu'on a plus de capacité à rendre ce que l'on entend et à imiter, c'est ça ?
Plus de plasticité, on dira.
Voilà. À imiter.
Cette plasticité, plus vous apprenez, cette plasticité va se structurer en fonction de votre langue ou peut-être une deuxième. Mais à partir de là, ce jeu de structuration va contraindre ensuite cette plasticité qui aurait pu être disponible par la suite. Donc, c'est un jeu de construction. Mais dans les enfants du Nicaragua, ce qui est important, c'est qu'en définitive, ce qui a été mis en évidence dans cette situation très concrète, c'est justement qu'il possédait déjà ses capacités. Alors la question ensuite pour nous évolutionnistes, c'est de savoir d'où viennent ces capacités qu'on voit se mettre en place très rapidement.
Et c'est là où vous cherchez encore.
Eh oui.
Nicolas,
justement, est-ce qu'il y a une époque, j'ai cru comprendre, est-ce qu'il y a une époque où on parlait comme Tarzan, c'est-à-dire sans grammaire, sans syntaxe, sans sémantique?
Alors là, d'une part, on n'en sait fichtrement rien. On n'a pas d'enregistrement.
Non, mais
tant qu'on ne n'aurons pas cloné des Néandertals, nous ne saurons pas. Alors pour l'instant, c'est de la science totalement fiction actuellement. Moi, je parierais pas ma chemise que dans quelques décennies, on n'y aura pas. Hein. Et je suis certain que des femmes seront candidates pour porter des petits Néandertals. Bon, je pense, c'est pas actuellement tout à fait hors du champ de la science, mais tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'aura pas d'idée. Mais ça n'empêche pas d'essayer de faire des...
Mais ça nous intéresse quand même, parce que Néandertal, vous travaillez sur le crâne de ce bonhomme-là, entre autres, Pascal Pic, et vous savez à peu près comment il était fichu.
Bien
et
sûr.
vous travaillez, Jean-Louis Dessalles, entre autres sur l'intelligence artificielle, science cognitive. On se dit que en croisant, alors ça c'est de la fiction que je fais, mais je croise vos travaux de recherche, je mets tout ça dans un ordinateur, je fabrique Néandertal de manière donc fictive hein, dans mon ordinateur, et puis je peux essayer peut-être de lui donner une parole, mais j'invente, c'est ça?
Alors,
délire.
Là, on en est très très loin, parce que on manque énormément de données. On sait quand même, et là Pascal va commenter. Néandertal avait un très gros cerveau, hein, très comparable au nôtre, même
plus grand,
peut-être
même.
Plus grand. Hein.
Plus grand.
En général, donc le cerveau coûte très cher en termes de consommation.
Ah, c'est un scandale écologique,
c'est un scandale écologique. Voilà.
Ah, oui,
et donc la question de savoir à quoi servait-il. Nous, on a une idée de à quoi sert notre cerveau. Contrairement, encore une fois, à ce qu'on nous disait quand on est était enfant, le cerveau ne sert pas à faire des outils, ne sert pas à planifier la chasse. Vous savez, pour faire tout ça, il suffit d'un tout petit cerveau. Les chimpanzés le font très bien. Le cerveau nous sert à parler. Notre cerveau, l'énorme masse du cortex.
C'est pour parler.
C'est pour parler. Tout
ce qui est contexte social.
La mémoire qui nous sert à resservir des épisodes que nous avons vécus. Nous stockons des dizaines de milliers d'épisodes de notre vie. À quoi cela sert-il? Pas du tout à une efficacité matérielle, parce que dans nos sociétés, on pense toujours matériel, échange de efficacité comportementale, alors que l'essentiel de la vie humaine se situe dans un monde de presque de fiction, j'allais dire, ou de narration, comme le dit Bernard Victory. C'est un monde social, et notre cerveau nous sert à utiliser le langage à des fins sociales.
Parce que parler sert à avoir plus de poids dans la société, à s'affirmer et à prendre de l'espace.
Exactement. Notre existence sociale est due en très grande partie à ce que nous sommes capables de produire par notre langage. En était-il de même pour Néandertal? Nous n'en savons rien, mais cet énorme cerveau, si on par analogie avec le nôtre, on peut se dire, bon, mais il avait une forme de communication qui était sans doute différente de la nôtre. Peut-être, si l'hypothèse du proto-langage est crédible, nous partagions avec lui ce langage Tarzan. Et il a développé quelque chose qui n'a aucune raison d'être au-dessus de ce proto-langage, quelque chose qui n'avait peut-être aucune raison d'être similaire à notre propre langage avec notre grammaire, etc. Il n'y a aucune raison de penser que Néandertal a fait la même chose, il a sans doute fait autre chose.
Oui. Pascal, Pic.
Oui, alors ce qui est important, c'est qu'en effet, on parlait tout à l'heure de Robin Dunbar, et c'est un peu grossier ce que je vais vous dire, mais on s'aperçoit que, d'abord, le cerveau, pourquoi c'est pas un organe très facile à expliquer en termes d'évolution. Le cerveau, c'est 2% de notre masse corporelle, c'est 20 à 25% de toute l'énergie que nous consommons chaque jour.
D'où le scandale.
D'où le scandale. Non, mais c'est vraiment un sacré bazar. C'est pour ça qu'il y a très peu d'espèces qui ont développé un gros cerveau. La deuxième chose.
Parce que ça coûte trop cher.
Ça coûte très cher.
En énergie.
Deuxièmement, un gros cerveau, on l'a vu, la taille, évidemment, c'est une corrélation très vulgaire et très, très médiocre par rapport à l'intelligence, mais en tout cas, c'est ça que nous trouvons, nous, est lié en fait à la complexité des systèmes sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, chez les espèces, notamment chez les singes, qui sont bien étudiés maintenant, plus les systèmes sociaux sont complexes avec un grand nombre d'individus, plus il faut pouvoir gérer cela. Et donc, il faut communiquer. Donc, on comprend bien qu'il faut faire cela. Alors, nous, ce que l'on peut faire dans l'évolution, c'est regarder sur les crânes, les moulages à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, on peut avoir le volume, on fait des moulages, on remplit avec de la résine. Et puis, on peut retrouver aussi des traces de l'organisation du cortex cérébral. Très peu, mais on retrouve des choses. Et on s'aperçoit qu'au cours de l'évolution, par exemple, toutes les parties qui sont liées à l'association entre tout ce qui est primaire, les sensations en termes de vision, d'audition, de gestuelle, etc., et bien tous ces aires qui associent entre ces différentes façons de comprendre le monde et d'agir sur le monde s'amplifient. Et c'est là que c'est absolument fascinant. On s'aperçoit que, par exemple, grâce à la neurologie moderne et l'imagerie médicale, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Mais en attendant, si je dis « je fais un outil », si je regarde quelqu'un faire un outil, et si je fabrique un outil, c'est quasiment les mêmes régions du cerveau
qui s'allument,
qui s'activent. Donc vous avez des phénomènes de redondance, et c'est là que se créent donc les possibles en termes d'origine de nouvelles fonctions. Donc c'est pour ça que le langage, on l'a dit tout à l'heure au début, en fait recouvre énormément de fonctions que l'on retrouve réalisées de différentes manières chez les espèces, notamment à travers la gestuelle, les vocalisations, etc. Mais il n'empêche que cette capacité, par exemple, de construire un outil, une chaîne opératoire pour construire un outil, ça demande une séquence avec une série de gestes qui vont vers un but. Et ben, une phrase se construit de la même manière. Il y a une grammaire, ce qu'on appelle une chaîne opératoire. C'est comme une phrase, d'une certaine manière. D'un point de vue cognitif, c'est la même chose. Or, nous, ce qui est intéressant, c'est de, comme je l'ai fait pour les premiers hommes, de regarder ce qu'ils font en termes d'archéologie. Or, Néandertal avait des premiers soucis esthétiques. Ils avaient des colliers, mais ça, c'est assez rare. Et puis surtout, ils enterraient leurs morts depuis au moins 300 000 ans. Donc là, ça veut dire qu'ils ont des capacités narratives. On n'enterre pas ses morts sans être capable d'inventer un récit sur quelque chose au-delà de la mort, etc. Donc, Néandertal faisait cela. Et puis, il se trouve que chez nous, on a ce qu'on appelle une explosion symbolique qui devait exister chez Néandertal, mais chez nous, qui va se manifester dans les arts de toutes les sortes, les musiques, la danse certainement, mais surtout les peintures pariétales. Et là, très clairement, nous sommes dans le symbolique. Ça, c'est indéniable.
Pascal Lafitte-Certa sur Europe 1.
Les origines du langage, différentes hypothèses, expliquées, racontées par Jean-Louis Dessalles et par Pascal Pic. Origine que vous retrouvez dans un ouvrage, je vous le dis parce que ça vous intéresse forcément, c'est Les origines du langage, il a paru aux éditions Le Pommier avec la Cité des sciences et de l'industrie. Donc on était en train de parler, hein, de vous raconter Néandertal, puisque c'est sur lui que vous étiez, Pascal Pic, et on se rend compte que vous parlez d'art, de culture. Est-ce que ça, c'est important, lorsqu'on se penche sur ces origines du langage, Jean-Louis Dessalles, de se dire que l'art et la culture passent peut-être par là, dans cette communication, que c'est pas uniquement besoin de manger ou besoin de se battre.
L'art, la culture, beaucoup d'autres choses qui sont semblent être caractéristiques, oui, de notre espèce, donc Homo sapiens, avec l'explosion symbolique dont a parlé Pascal Pic, et le langage à la base de tout ça. Donc, d'où vient ce langage? Il suffit peut-être de regarder ce que nous faisons au quotidien avec ce langage, et nous faisons à peu près deux choses différentes avec le langage. Nous faisons des narrations, nous rapportons des faits passés ou nous signalons des faits présents. Donc ça, c'est une chose, la fonction narrative du langage, dont parle bien Bernard Victory dans notre petit livre. Et l'autre fonction très importante, c'est l'argumentation, la discussion. D'accord. Peut-être partagions-nous cette fonction narrative en partie avec Néandertal. Il n'y a aucune raison de supposer que nous partagions cette fonction argumentative avec lui, puisque
pourquoi ?
Parce que c'est la dernière apparue. D'accord. On peut penser que notre espèce, avec donc Homo sapiens, est née avec cette fonction argumentative, avec derrière la capacité logique. Donc je dis pas que Néandertal était idiot, mais il avait certainement une autre forme d'intelligence que la nôtre. Et notre forme d'intelligence est caractérisée par ce que nous appelons la logique. Alors évidemment, nous en sommes très fiers, mais vu de loin, sans doute que Néandertal aurait été très fier de sa.
Bon,
c'est symétrique.
Son fonctionnement,
voilà,
à lui.
C'est symétrique.
On attend de le voir. Hein.
Voilà, on va les cloner. Je sais pas. 2200.
Mais attendez qu'il déboule au foot, vous allez voir.
Voilà.
Les bourrins, c'est ça ?
Le coup de boue, vous allez voir.
Le coup de boue. Et donc, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faisons-nous des narrations et pourquoi argumentons-nous, puisque dans les deux cas, on a du mal à le rendre cohérent avec la théorie de la sélection naturelle. Et c'est là que revient le petit cratérope écaillé qui faisait... Le petit cratérope écaillé...
C'est un petit oiseau du désert.
C'est un petit oiseau du désert et qui... Bon, prenons l'exemple de ce qu'on appelle le mobbing. Je ne sais pas très bien traduire ce mot, c'est quand les individus de ces espèces donc intimident un prédateur. Par exemple, les corneilles vont faire du mobbing autour d'une buse. Voilà. Donc, ils s'approchent, c'est à celui qui va s'approcher le plus près du prédateur pour essayer de l'intimider de manière collective. Et donc ça, c'est une compétition. Et l'idée, c'est que la théorie d'un éthologiste qui s'appelle Amos Zahavi est de dire que les individus font ça pour la frime, en gros, hein, pour pouvoir acquérir de prestige dans le groupe. Alors, apparemment, si on transpose cela au langage, les individus parlent pour essayer d'obtenir un peu de prestige dans l'espoir de recruter des amis, hein, de recruter. Et voilà pourquoi on appelle ça la théorie politique de l'origine du langage. Hein. La théorie politique de l'origine du langage, c'est-à-dire que nous parlons pour recruter des amis, pour faire des coalitions.
Et qu'on veut être le chef, là?
L'important, c'est d'avoir des liens de solidarité. L'aspect chef, leadership, c'est autre chose.
C'est
quand quelqu'un est en forte demande, que tout le monde veut être admis avec lui, il en tire avantage en disant, je veux du statut, etc. Donc, c'est un phénomène émergent, effectivement. Après, la vraie politique, c'est la politique la plus visible, c'est celle des leaders qui parlent pour... Mais la politique, elle est au quotidien. C'est-à-dire, chaque fois que... Comment expliquez-vous que... finalement, nos meilleurs amis sont aussi ceux avec lesquels on aime discuter. Et réciproquement, les gens avec qui on n'aime pas discuter, on ne s'en fait pas des amis. Donc il y a une très très forte corrélation entre les liens de solidarité et les gens qu'on trouve intéressants par le langage. Donc le langage est impliqué jusqu'au cou dans la formation des liens de solidarité dans notre espèce. Et alors le défi pour nous, c'est là que les simulations sur ordinateur interviennent, c'est d'expliquer pourquoi il y a une bifurcation, comme il y en a toujours lorsqu'il y a des créations de nouvelles espèces, pourquoi il y a une bifurcation entre nous et peut-être je ne sais pas moi, les australopithèques ou d'autres, il y a eu une bifurcation sur le rôle prépondérant qu'a joué le langage dans l'organisation politique de notre espèce.
Nicolas,
vous parlez de simulation sur ordinateur. Est-ce que grâce à l'intelligence artificielle, on commence à faire parler des ordinateurs entre eux? Où en est-on? Est-ce que c'est plutôt du côté du rossignol que de nous-mêmes, hein?
Alors là, vous appuyez là où ça fait mal, puisque dans n'importe quel roman ou de science-fiction des années 50 ou 60 du siècle dernier, donc du 20e siècle, il était évident que en l'an 2000, vous souvenez de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc les ordinateurs auraient une compétence linguistique fantastique. Bon, on est en retard sur le
programme.
On est en retard sur le programme, donc avec mes collègues ingénieurs, nous, mais il y a une demande énorme, hein, vous voyez bien avec le web
et
l'aspect, vous avez mentionné l'aspect multilingue de n'importe quel contexte international. Nous sommes en retard pour la traduction automatique, pour le traitement des langues. Nous faisons des progrès chaque année, chaque jour. Il faudra nous laisser un peu plus de temps, je pense que, bon, on travaille tous les jours. Donc on fait des progrès. Mais pour, là, je parlais de l'ordinateur pour essayer de simuler les conditions sociales dans lesquelles le langage devient utile. Et ça, c'est pas évident.
Et vous, Pascal Pic, dans l'ouvrage, vous parlez des grands singes. Hein,
ouais.
Et vous dites que jusqu'à l'âge de 2 ans, les plus grands singes apprennent plus vite les bases du langage que nos enfants. Alors ça, c'est intéressant parce qu'après, à un moment donné... Ben ça s'arrête, parce qu'ils ne parlent pas, ils ne font pas de débat autour d'un micro une station de radio.
Ça, je suis d'accord. Il faut foutre un sacré bazar ici. Hein.
Mais, je les imagine bien.
La technique, j'aurais du fil à retordre. Non, très sérieusement, on s'est aperçu qu'en 1997 seulement, que les grands singes avaient sur l'air, sur la moitié gauche de notre cerveau, donc l'aire corticale gauche, des renflements qui correspondent à nos aires de Broca et de Wernicke, si on appelle
donc la parole, hein.
Donc l'air où siège, alors c'est plus compliqué que ça, on le sait aujourd'hui, mais en tout cas, ils avaient ces capacités. Donc ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on cherche les origines, Jean-Louis Dessalles, et c'est le point que je voulais faire, a très bien parlé de l'importance de ces fonctions politiques, narratives, argumentatives. Très clairement, les chimpanzés font de la politique. Ils font de l'épouillage, donc ils utilisent ce qu'on avait dit, cette fonction fatigue. Mais il est très clair que ceci ne peut se faire que dans un groupe restreint. Nous, avec la parole, on peut être capable de mobiliser un village. Maintenant, avec des micros, bon, on sait ce que ça peut faire, hein, avec des gens extraordinaires, mais on a tous en souvenir, en tout cas historique,
de grands discours
et d'autres. Donc on voit la puissance du langage, qui en fait n'est peut-être pas apparue pour la fonction politique, parce qu'elle existe déjà. La fonction argumentative, ça par contre, c'est une des fonctions qui est effectivement, à ma connaissance, on n'a pas ailleurs, mais le langage va complètement déployer ça d'une manière absolument fantastique.
Mais comprendre cette divergence-là, c'est travailler sur ces grands singes, c'est 2 ans, donc cette possibilité d'apprendre ce vocabulaire supérieur à l'enfant, donc à l'homme, au petit homme, comprendre ça, ça pourrait permettre d'avancer sur cette question des origines du langage.
Ah ben oui, ça nous a permis de bien avancer, notamment sur ce cognitif. Ça nous a permis de mieux voir les régions du cerveau qui sont impliquées. Ça nous a permis de voir et de mieux comprendre. Mmh. Et l'imagerie médicale, soyons très clairs. Par exemple, on parlait, j'ai des amis, Jacques Vauclair, que je vais citer, qui était quand même un grand chercheur en France sur ces questions-là. Eh bien, Jacques Vauclair me disait, comme d'autres, oui, les chimpanzés peuvent en fait rentrer dans une communication d'échange avec nous ou les autres sur des fonctions du type impératif. Je veux jouer, je fais ça, j'ai un ressenti. Oui, mais ça, on peut l'observer. Par contre, me disent-ils, ils n'ont pas de représentation, ils ne peuvent pas raconter le monde. Donc la fonction narrative.
Narrative.
Oui. Eh bien moi, je dis ceci, je ne dis pas qu'ils peuvent le faire, mais je dis qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le tester cela. Et j'espère que plus tard, comme pour la modélisation dont parlait Jean-Louis Dessalles, que les progrès de l'imagerie médicale nous permettront peut-être de constater qu'il y a au niveau des représentations mentales chez les grands singes, peut-être ou pas, donc faut le tester, hein, on est en science, ceci ou pas, mais que peut-être ils ne sont pas capables de l'exprimer. Donc vous voyez, on a encore plein de zones obscures dont vous disiez un petit peu surprise, les origines du langage, on a beaucoup plus de questions, mais c'est ça les sciences, c'est-à-dire qu'on avance et à chaque fois ça réouvre d'autres questions. On a drôlement avancé. Hein.
Question courte, réponse courte, Nicolas.
Pascal Pic, combien de mots chez les grands singes à 2 ans?
Ça va dépendre des individus, bien évidemment, mais ça peut être quelques centaines, ça va de 200 jusqu'à 700, 800, sachant que notre vocabulaire quotidien aux uns et aux autres ici, c'est quelques 300, 400 mots.
Alors, pour la suite, je vais renvoyer nos auditeurs à vos ouvrages, parce que là, c'est vraiment terminé pour notre langage aujourd'hui. Donc, ça s'appelle « Les origines du langage ». C'est aux éditions Le Pommier avec la Cité des sciences et de l'industrie. C'est co-signé Jean-Louis Dessalles, Pascal Pic et Bernard Victory. Et ça s'appelle « Les origines du langage ». C'est très bien fichu, votre livre, messieurs. Et puis, c'est clair, c'est simple et c'est accessible à tout le monde. Et puis, pour permettre à vos amis d'écouter cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, prenez le réflexe. Ce podcast, direction le site d'Europe, europe1.fr, c'est gratuit, vous vous abonnez et vous écoutez nos émissions n'importe où, n'importe quand, sur votre ordi ou votre baladeur. Je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine avec les programmes d'Europe. Merci.
Merci.
C'était Pascal Lafitte.
Parlons-nous.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.